L'amour, c'est...
Mon ex est un pur connard.
L'amour, parfois, c'est nul. Puis on est plein de désillusions parce qu'en fait, un jour, on nous quitte et on nous brise le cœur.
Si je les aimais, il n'y a aucune raison que d'un coup, ça s'arrête.
L'amour, c'est compliqué, n'est-ce pas, chers auditeurs? À travers ce podcast nommé « Ça m'apprendra », on va partir à la rencontre d'hommes qui ont aimé, très fort. Mais qu'est-ce qui a foiré alors? Aujourd'hui, j'interviewe David Jean Motte. Au-delà de son personnage extraverti à la télévision, David est un homme très sensible qui a eu une vie fascinante. Quand il était adolescent, il a rencontré Cathy. Il lui vaudra une vie d'amour sincère pendant 23 ans. Aujourd'hui, il est en couple avec un homme, mais Cathy sera toujours la première dans son cœur. Ce podcast est l'un des plus touchants que nous avons eu à réaliser, Justine et moi. Il nous montre à quel point l'amour n'a pas de limite.
Je me souviens, c'était donc au scout, à la 239e unité donc de Dour. Et donc, c'était une jeune fille donc très pétillante, avec elle me faisait penser à Lio, avec ses nœuds comme ça au-dessus de la tête. Elle avait un grand palmier comme ça sur la tête, et donc habillée en uniforme, bien sûr, de scout bleu marine. Déjà, je voyais dans son regard, donc très attentionnée, donc déjà très amoureuse. J'avais 13 ans, elle avait 11 ans, voilà exactement. 11 ans.
Tu es tombé amoureux d'elle, c'était un coup de foudre?
Ça n'a pas été un coup de foudre tout de suite, parce que je me souviens, donc elle était très, elle venait souvent à la maison parce qu'on habitait donc vraiment pas loin l'un de l'autre, hein, donc on était à 6 rues à Dour, et donc elle venait régulièrement, et comme j'étais fan de Madonna, elle achetait donc tous les magazines People ou les magazines de jeunes, justement, où elle découpait donc toutes les images de Madonna pour venir me les apporter donc à la maison. Pourquoi? Parce que ma chambre n'avait pas, je pense, un centimètre carré où il n'y avait pas une image de Madonna. C'est ça qui a vraiment fait notre première approche, et ça a duré jusque l'âge de 15 ans. Je me souviens, elle mettait du Impulse. Et donc, je trouvais que ça allait très bien avec son odeur de peau. Lui correspondait très bien, côté fraîcheur. Donc là, les cheveux naturels, donc au carré. Une jeune adolescente, hein, donc avec une poitrine bien faite, une taille bien marquée. Elle faisait de la natation, elle était championne de natation, donc aussi, il faut le savoir. Et donc, un corps bien galbé. Vraiment une muse. En tant qu'artiste, c'était vraiment une muse. Et donc, je parle toujours hein, de cette période-là, donc 15, 13 ans. Donc, 15 pour moi, 13 ans pour elle. Et ce qui était très intéressant aussi dans notre relation, c'est toujours ce contact très... on avait un contact très collé-collé, quoi. Avant qu'il n'y ait le fameux bisou. On attendait tous les deux, mais on ne savait pas. Et donc, ça a duré 2 ans. Il y a eu 2 ans comme ça de... On ne sait pas, on ne sait pas si on va faire, si on ne va pas faire de bisous. C'était très mignon, c'était très beau. Et le premier bisou, alors, Je vais l'accompagner, donc on s'accompagnait mutuellement. Hein. Donc, elle m'accompagnait à la maison. Bon, 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 bon. On passait 3-4 heures ou 2 heures ensemble devant la télé, devant des tartines au choco. Hein. Et puis après, pouf, moi je la ramenais chez elle, évidemment, quand même, un peu gentleman. Hein. Je ne vais pas la laisser toute seule. Et une fois, c'était en période d'examen. Et donc, je ne sais pas, on était peut-être un petit peu sous le stress ou tout ça, mais on devait partir, mais en même temps, on ne voulait pas. Et quand on était sur le pas de la porte, elle a voulu m'embrasser donc sur la joue, et moi je me suis pivoté légèrement et on s'est embrassé sur le coin de la bouche, donc extrémité, et donc on a fermé la porte. Je suis parti chez moi, donc un peu tout fier. Hein, les garçons, ils sont fiers hein, quand c'est comme ça. Et j'ai su par la suite, parce qu'elle me l'a dit, hein, pendant un bon moment, il y a eu un doute en sachant est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Et je lui ai dit, je lui ai confirmé, je lui ai dit si, c'est vrai. Et je l'ai fait exprès. Et notre premier bisou, et je ne sais pas comment on peut expliquer ça, le premier. la première était celle qui s'est additionnée par rapport à ces deux années donc de va-et-vient donc chez l'un et chez l'autre et au scout. Eh bien, c'est ça qui a fait que notre petite étincelle a commencé. Quand on a eu ce petit baiser, je lui ai dit, écoute, c'est une histoire qui commence, mais qui va être très longue. Et là, elle m'a dit, je le sais, je le sens aussi. Et elle m'a dit aussi, de toute façon, tout ce que je ne pourrais pas t'apporter, eh bien, tu pourras aller le chercher ailleurs. Parce qu'elle voyait que j'étais comme ça, un peu très androgyne, comme ça. Et elle me dit, David, j'ai l'impression que je ne t'aurai jamais à moi toute seule. Et je lui ai dit, écoute, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, moi, je sais très bien qu'on va avoir une belle histoire et que ça va être, et que ça va être long. Parce que voilà, on était bien, on était en osmose, on était admiratif. J'étais admiratif donc de sa silhouette, de son bien-être, de son côté souriant, jovial, lumière, solaire. Moi, j'étais un peu justement un petit peu plus artiste, qui partait un petit peu dans tous les sens, mais qui réussissait quand même tout ce qu'il entreprenait, mais pas avec ce bagage culturel qu'elle avait pu avoir et qu'elle avait acquis grâce aux parents, aux études. Mais voilà, moi, j'avais un manque à ce niveau-là parce que je venais d'une maison de cité, donc c'était plutôt, on joue à l'extérieur et la seule culture générale qu'on avait, ben, c'était la télé, quoi. Donc, il y avait un monde de différence. Donc, j'étais très admiratif par rapport à ça et surtout par cette simplicité. Et je crois que c'est un peu la princesse et Gavroche qui se sont rencontrés à ce moment-là. Mais Gavroche, avec ce sourire, ce pétillant, c'est très important le départ. C'est pour ça que je suis un peu long là-dessus, mais c'est le départ, c'est les bases de tout, et comme il n'y avait pas de comment je vais dire, c'était pas un garçon et une fille pour du sexe, c'était pas hormonal, sexuel, c'était vraiment du bien-être, de l'attention et un peu un amour intemporel qui existe encore maintenant, hein. Quand on aime quelqu'un comme ça de base, du moins à la base, hein, eh bien, ça ne peut pas se finir quand il y a eu le respect total. Et donc, à partir de 15 ans, les premiers bisous sont arrivés. Il faut savoir que les premiers bisous qui sont arrivés sont restés bisous pendant longtemps. Ça n'a pas été... voilà, donc ça a été beaucoup de bisous. Les parents ont vu que ça se passait bien. Ils m'ont aidé culturellement aussi. Donc, ils m'ont emmené à l'exploration du monde. Ils m'ont emmené en vacances avec eux. On est allé au ski. Bien sûr, au ski. Donc, les parents, on est quand même jeunes. Donc, ils ne veulent pas qu'on dorme ensemble, évidemment. Et donc, ben, comme tous les adolescents, ben, on allait se dormir chacun de notre côté. Et puis, pendant que les parents dorment, mais bon, on allait se faire des petits bijoux. Mais ça se limitait à ça, vraiment, je tiens à le dire, parce que ça arrivait beaucoup plus tard. Et donc, on a vraiment vécu... moi, j'ai recréé une famille grâce à eux. La fantaisie, justement, peut-être par rapport à cette culture qui était peut-être un petit peu plus stricte, eh bien, ça lui a peut-être donné un petit côté... elle aimait bien son petit Johnny Depp, quoi. Voilà, elle aimait bien son petit Johnny Depp par rapport à ça. Et je me souviens que quand on était en rue, quand on se tenait la main, donc toujours cette période, 15-16 ans, eh bien, quand il y avait les parents qui arrivaient ou cousins, cousines, hein, parce que voilà, j'ai une belle pensée pour eux, ils ne sont plus là malheureusement, eh bien tout de suite, on peut se lâcher la main. Elle me disait, non, il y a mes parents. Donc tout a toujours été fait comme ça, dans ce respect de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui a fait que le couple, le jeune couple, a évolué en bien-être. Alors, 16 ans arrivent. Moi, je faisais du mannequinat à l'époque. Donc, j'étais au Butterfly, rue de la Montagne, donc à Charleroi. Période Jean-Paul Gaultier, Madonna... Donc, à fond là-dedans, toujours Madonna, les concerts, Jean-Paul Gaultier arrive. Et donc, Jean-Paul Gaultier, c'est quoi? C'était l'époque donc il y avait les grandes gabardines militaires avec du doré et du bordeaux donc sur les manches. Et comme on n'avait pas trop de sous, eh bien, hop, j'allais chez Oxfam acheter des vêtements que je customisais. Donc, il faut savoir qu'on a commencé à avoir un style à 16 ans. Donc, je mettais des bandeaux dans les cheveux, un peu à la Milli Vanilli, avec des têtes de mort. Mes cheveux ont commencé à pousser parce que je trouvais que c'était plus joli. Parce que moi, je faisais... Alors, il faut savoir que très androgyne. Donc, les cheveux qui arrivaient mi-dou. La peau très claire, le maquillage, j'ai commencé à me maquiller moi à l'âge de 13 ans. Tout le monde disait que j'étais beau, que j'étais beau, que j'étais beau parce que je faisais du mannequinat, donc 68 kilos, 1m83, et assez atypique, c'est vrai. Donc c'était un couple assez fort, visuellement on était fort et en même temps on était un couple exemplaire parce qu'on s'aimait réellement. Voilà, on était fusionnels, on avait besoin de l'un et de l'autre. Après, on a eu des bâtons dans les roues. Hein. Il y avait des filles qui lui disaient oh, « je sors avec ton mec » et tout ça. Donc, elle venait me voir, elle me disait « écoute, j'ai une amie qui m'a dit ça ». Je lui dis « mais écoute, Cathy, regarde-moi, allez, sérieusement, tu crois qui entre les deux ?» Elle me dit « oui, mais c'est toi ». Mais elle insistait tellement qu'elle me dit « je dis mais non, il n'y a rien, il n'y a rien eu ». Ça, c'est toujours le problème des filles qui doutent toujours d'elles. Alors qu'il ne faut pas, les filles. Quand vous sentez vraiment que c'est le bon, quand vous sentez vraiment que c'est la bonne personne, ben, il n'y a pas à douter. Voilà, il faut vivre le moment, mais il n'y a pas à douter. Les 17 ans arrivent. 17 ans, j'arrête le mannequinat. Parce qu'elle est jalouse. Parce que moi, on me demande d'être torse nu pour un défilé à Rome pour 501. Et donc, comme j'ai un corps comme une paille, j'ai pas envie de montrer ce corps aux gens. Donc, il y a une petite jalousie qui s'est installée parce qu'on était très possessifs aussi l'un de l'autre, ce qui est normal quand on s'aime. Mais bon, je voyais que ça l'embêtait un petit peu qu'il y avait des filles qui me tournaient autour. Et donc, j'ai arrêté parce qu'on voulait me mettre torse nu, parce que j'avais pas envie. Et donc, voilà. Mais on a nourri l'ego grâce à ça. On termine les études et toujours pas de rapport sexuel. Hein.
Ah oui.
Ça, il faut savoir. Hein. Et mes 18 ans arrivent. Attention, les 18 ans arrivent, donc on est un peu, on ne sait pas comment ça fonctionne. Comme je dis toujours, on s'est connus sans poil. Donc, tu vois, on est, voilà, 15 ans, moi je suis imberbe, elle 12 ou 13, je ne me souviens plus. Donc, voilà quoi, il y a toute une petite mise en place, hein. Du moins pas une petite, ça paraît énorme quand on est plus jeune, ben voilà. Faut y aller, quoi. Et donc, à chaque fois, reporter. Parce qu'on se sentait tellement bien comme ça qu'on avait peur qu'il y ait que ça change quelque chose. On se disait, bon, à ton avis, quand, comment on va aller au planning familial. Il faut se préparer avant. Donc, on a tout préparé. On est au planning familial à deux. Sans les parents, sans personne. On l'a dit à personne. On a... Donc, préparer ça psychologiquement. Et donc, on était très excités tous les deux, mais on avait très, très peur. On s'est retrouvés à deux. Et voilà, on a abouti à tout ce qu'on avait imaginé, pensé et surtout ce qu'on avait projeté. Parce que c'est ça, c'est de la projection. Et donc...
Au bout de 3 ans de relation, donc plus
oui,
ou moins.
Oui, oui, c'est ça que je dis que les fondations sont là. Et donc voilà, donc pop, 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 tac, tac, dans le sens, pas tac, 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 non, dans le sens, voilà. Et alors, ça va, oui, ça va, et toi, oui, oui, ça va, bon, et ça va bien, oui, ça va bien, et voilà. Contente, oui, contente. Voilà, c'est vraiment le débriefing. Donc, c'était rapide, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y avait pas eu de... C'était très rapide. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parents cultivés, familles cultivées, donc amis autour cultivés. Et le père, un jour, vient me voir parce qu'il voyait que ça se passait bien. Donc là, j'ai 18 ans. le père vient me voir et me dit, écoute David, je tiens à dire un truc. J'ai beaucoup d'amis qui me parlent beaucoup en négatif de toi. Parce qu'ils te trouvent... Moi, je sais qui tu es, qui me dit. Mais les gens, du moins même les amis que j'ai, me trouvent que tu rigoles beaucoup, que tu parades beaucoup. Et ils sont un peu peur pour moi et pour ma fille. Et je dis, ah bon, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ou tu vois, je pose la question. Et Cathy me le dit aussi à l'époque. Elle me dit, écoute, il y a les voisins là qui n'arrêtent pas de dire ça. Je dis, ah bon, c'est con. Je dis, ils sont cons. Parce que de un, ils ne savent pas. C'est pas parce qu'ils sont enseignants et qu'ils vivent dans la même école que moi. Entre ce qu'ils voient, eux, à l'école et ce que je vis avec toi à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Des grandes gueules, comme on dit, hein, ou des mauvaises langues, ou des je sais tout. Mais il me dit ça et ça me choque, ça me vexe. Et je me dis, ben oui, je suis aux ETH, je suis en art. Oui, je vais finir mes études et je vais être prof de dessin. Voilà. C'était ma vocation dans le sens où les parents avaient prévu ça pour moi, mes parents à moi. Et là, j'ai un professeur donc qui me donne cours à l'école qui me dit oui, les enfants ici ne restez pas ici, si vous restez ici vous allez mourir, il y a plus de boulot dans le secteur, il faut absolument aller dans les nouvelles technologies. Et je lui dis, ah bon, et c'est quoi ces nouvelles technologies? Oui, allez passer l'examen, c'est à Valenciennes. Pas de voiture, Valenciennes, pour moi, c'est le bout du monde. Et je me dis, bon, pourquoi pas? Donc, j'en parle aux parents de Cathy, et je leur dis, ben voilà, il y a un examen d'entrée, je crois que c'était en mai ou en juin, et à Valenciennes, dans une école privée, qui s'appelle Supinfocom. Et donc, ils me disent, vas-y, David, fais-le, et si. Parce que tu n'arrêtes pas de faire du dessin, tu fais de la couture, tu fais de la sculpture donc sur des bloquitons que j'ai toujours à la maison, tu fais de la soudure en sculpture, donc la 3D, tu la maîtrises, je vais dire déjà en extérieur, donc pourquoi pas l'appliquer sur un ordinateur. Je n'avais jamais vu un ordinateur de ma vie, hein, faut le savoir, ça. Je ne connais pas du tout le milieu de l'informatique. Je suis avec des matériaux basiques et tout ça. Cathy, je la dessine avec mes doigts dans des pots de gouache. J'ai encore à la maison donc des grandes peintures de 2 mètres sur 5. Hein, parce qu'à l'époque, c'était l'amour en héritage avec Merquès et sa muse. Et donc, j'ai encore à la maison un portrait de 2 mètres sur 1 mètre 50 de Cathy fait avec mes doigts. Sans pinceau, sans rien. Cathy m'avait dit, vas-y, fais-le. Comme ça va peut-être fermer la gueule à 2-3. Donc, j'avais une mission, c'était de réussir. J'avais les parents derrière. J'avais elle qui me soutenait. Et donc, j'ai dit, bon, allez, on va essayer. Je viens d'une école provinciale où sont quand même assez tagués sur les murs, on va dire. Hein, sur les bancs, les murs, les sièges. Et j'adorais ça, d'ailleurs. Et là, je me retrouve dans un amphithéâtre qui sent l'étol super nickel. J'ai l'impression d'être, je ne sais pas, moi, à l'université, mais à New York ou je ne sais pas quoi. Ça n'avait rien à voir avec ce que je connaissais d'habitude après toutes les études que j'avais faites. Tout est plein. Je vois des mecs qui sortent des chevalets, qui ont une petite casquette sur le côté, qui la jouent artiste à fond, comme si on était à Montmartre. J'en vois d'autres qui sont là, crayons de couleur, Pantone, design et tout. Et je me dis, putain, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Avec mon bic bleu, mon bic noir et mon bic rouge, et des feuilles quadrillées. Les autres, ils avaient des papiers canson. Je me souviens et des Léodes. Et donc, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire ici? Et donc, il commence à nous expliquer les feuilles qu'on a reçues, ce qu'on doit faire. Donc, on doit analyser une pub. Il nous montre le générique du JT de 20h, donc sur TF1. Ils nous font écouter donc, l'amour des fins de Jim Berking. Ils nous demandent de faire donc, la pochette, d'imaginer la pochette. Ils nous demandent de faire donc, un nouveau tube de dentifrice. Donc, j'avais fait une bouche rouge, un peu à la Playboy, comme ça, hein, en tube de dentifrice. Ils nous demandent de créer une bande dessinée. Donc, je fais la bande dessinée. Ils nous demandent... Voilà, la dissertation. J'étais très mauvais en orthographe. Ça, c'était vraiment ma tare et mon point faible. C'était vraiment l'orthographe. Et ils nous demandent de faire une dissertation. Alors, le petit malin ici qui est là, je fais tout ce qu'ils m'ont demandé au niveau graphique. Et comme il y a un timing, je me suis dit, je vais mettre la dissertation en fin de liste. Comme ça, ils vont croire que je n'ai pas eu le temps de la faire, vu que je me suis mis sur le dessin. Mais en fait, je joue le genre, voilà, je n'ai pas su répondre parce que je n'ai pas eu assez de temps. Donc, j'ai tout misé sur la créativité et sur le graphisme. Et là, je rentre en Belgique. Arrive le mois de septembre. Un coup de téléphone sonne. Ma mère me dit, David, je ne sais pas, je n'ai pas compris, mais il y a une école de Valenciennes qui t'a appelé. J'appelle donc Sabine Robette, qui est la secrétaire, chez qui j'ai dormi par la suite, parce qu'elle m'a hébergé. Et elle me dit, bonjour, monsieur Jean Romotte. Déjà, on me dit, monsieur, j'ai 18 ans. Et je dis, oui, bonjour. Elle me dit, ben voilà, c'est pour vous dire que vous avez réussi votre examen. Alors là, je repense à tout ce qu'on m'a dit. Je repense à qu'on m'a dit, ouais, il ne sert à rien, machin, voilà, il parade. Et là, je jurle dans la maison, et jurle, mais vraiment fort, et là, boum, il y a ma mère qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je dis, j'ai réussi, mais ils ne savent pas, je n'aurais rien dit. Et elle me fait, ah, alors, si vous êtes déjà content pour cette première nouvelle-là, vous allez être content pour la deuxième. Et elle me, je lui dis, pourquoi? Mais parce qu'en fait, au lieu de passer donc au lieu de faire votre première année, on vous met directement en troisième. Alors là, j'hurle. Mais fort, mais je fais des bons. Hein. C'est comme si, je ne sais pas moi, on avait gagné la Coupe du Monde hein, dans cet esprit-là, mais c'était personnel. Et là, j'ai un malin plaisir à l'annoncer donc, aux parents qui ont un malin plaisir de l'annoncer aux autres. La première année se passe, je sors premier de classe. Revanche sur la vie. Revanche sur la maison de cité, revanche sur les connards qui faisaient chier et revanche sur les connards qui faisaient chier mes futurs beaux-parents. Et donc, je réussis premier de classe, Cathy super fière, elle fait l'IATA, elle réussit aussi. Et donc, je fais deuxième année, elle continue donc à l'IATA, je fais mes stages à l'RTBF, à la cellule Imagix donc à l'époque. Et en même temps, je vais la voir à l'IATA à Namur, parce qu'elle est à Namur en Côte, et moi je suis à Valenciennes. Je dors chez ma secrétaire, parce qu'elle ne veut plus que je fasse des allers-retours, parce qu'elle se dit, mais le gamin, il va... C'est pas possible. Et mes parents m'avaient dit, on veut bien te payer tes études. C'était 3 000 euros. Donc ils ont fait des choses en plus pour pouvoir me payer ses études. Et donc... Cathy est à Namur, moi je suis à Valenciennes, je dors chez ma secrétaire, elles se connaissent bien, je dors vraiment dans le divan. Hein. Et donc là, on se retrouve, donc je vais à l'RTBF, je pars à l'RTBF donc de Namur, je continue mes études, et là je sors deuxième de classe. À cause du professeur qui m'avait dit d'aller à cette école, il m'a mis 0 sur 20, parce qu'il commençait à voir que l'élève dépassait le maître. Donc ça a fait chier en fait. Mais c'est pas grave. Le but c'était de montrer que ce qu'on avait dit sur moi en disant que je ne servais à rien, eh bien que j'étais capable de faire des choses. Et donc voilà. Donc là on commence à avoir notre petite vie de couple. Nous sommes dans notre petit lit pour la première fois. On s'aime, on fait l'amour, on se fait à manger, on va au cinéma, tout ce qu'un jeune couple peut rêver. On part en vacances à Torremolinos avec ma sœur et mon beau-frère. Et donc on a notre chambre, je lui achète ses petits sous-vêtements. J'aime bien l'habiller en fait. J'adore la regarder, j'aime bien la regarder se maquiller. Je vois, elle m'apprend le chic féminin en fait. Donc voilà, elle réussit. Très bien. Elle réussit très bien et elle se met indépendante tout de suite. Moi, je clôture donc l'école et me voilà partie à Paris parce que comme je suis deuxième donc, de ma section, la directrice me dit, écoute, va à Paris. Il y a une société de jeux vidéo qui s'appelle Virtual Studio. Ils recherchent du monde comme toi. Donc, vas-y. Là, c'est dur parce qu'on se dit, bon, Valenciennes, c'était déjà pas mal. On était déjà séparés. Mais alors, Paris, c'est Paris, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Elle se met indépendante. La mère nous travaille donc une maison à la rue Mirliton, à Dour, et on a un loyer correct. Et donc, Cathy prend, se met indépendante donc, à la rue Mirliton, et moi, je me retrouve à Paris. Les parents me disent d'aller à Paris, donc ses parents à elle, en disant, va David, vas-y, on est là, fonce. Moi, je le dis à ma mère, elle pleure. Je pars avec, il n'y a pas encore de TGV à l'époque, donc je pars avec 50 francs français. Je sais me payer le ticket de train, je suis avec un ami qui s'appelle Stéphane Nazé. Il a fait Fight Club, il a fait les Minimoy, il a fait tout ça. Hein. Donc, c'est une école pointue et on a toujours voilà, des cerveaux. Quoi. Et donc, je pars avec Stéphane et nous voilà partis donc, à Paris. Donc, Cathy attend à chaque fois donc, les messages. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Hein. On est encore avec du fixe. Hein. Les téléphones portables n'existent pas. Si, pour les riches dans Dallas ou Dynasty, ils ont ça dans leur voiture. Il y a presque 30 ans. Donc, me voilà à Valenciennes avec Stéphane. Non, me voilà à Paris avec Stéphane. On commence à faire toutes les boîtes de jeux. Et là, on me demande de rester pendant 3 mois. Donc, je squatte. Cathy vient me voir les week-ends. Je reviens parce que j'ai toujours pas de thunes. Donc, je reviens avec des boîtes Unox à la boulette, des boîtes tomates Unox à la boulette que je reviens. Donc, Cathy m'apporte donc, à Paris. Donc, on fait vraiment des allers-retours comme ça avec les trains. Toujours pas de TGV, j'ai à le dire. Hein, le TGV, donc, c'est le corail. Et on le prend de nuit. Et déjà, le couple, il faut qu'il soit super fort pour maintenir ce rythme-là. Donc, on s'aime toujours. On est beau, on va au Queen. Fanny, donc du Queen, nous voit et voit deux personnages complètement atypiques et elle nous appelle donc les Moupettes. Donc ça, c'était notre surnom donc parisien. On commence à côtoyer donc des homosexuels, donc un couple, Eric et Thierry. Et là, c'est drôle parce que moi, je commence à tomber amoureux du garçon en plus d'elle et donc ça fait un truc bizarre. Et donc, je commence à tomber amoureux d'un garçon. Là, c'est assez spécial.
T'en parles à Cathy, de ça ?
Ah, mais bien sûr. On vit ça. On est en train de le vivre. Et donc, là, c'est problématique. Et en fait, elle prend du recul par rapport à ça. Et elle me dit, écoute, si tu dois vivre quelque chose, vis-le. Ça va me faire du mal, mais je ne pourrais pas aller contre ça, contre cette attirance-là. Et donc, je vis les choses. Je vis les choses avec ce garçon qui est en couple. C'est assez particulier parce que voilà, c'est une découverte, c'est d'autres choses. Il n'y a pas de voilà, il y a pas. Vous imaginez pas le diable, hein, les amis. Hein, c'est une relation de regard, de toucher, de tout ça. Et c'est ça qui est excitant justement, parce que justement il n'y a rien d'autre. Et donc elle nous laisse vivre le truc. Et donc, c'est assez compliqué à ce moment-là parce qu'on est isolé, on est à Paris, on travaille beaucoup. Donc, je crois qu'on a besoin d'exutoires comme ça parce que le travail est très, très lourd, est très, très lourd. Et donc, je vis quelque chose comme ça, dur pour elle et en même temps, dur pour moi parce que je suis entre deux trucs, là. Donc, entre une fondation où tout est clean, et puis quelque chose d'attirance comme ça, chimique, c'est vraiment ça. Et donc là, c'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On revient en Belgique. Là, j'ai 26 ans. Je monte ma société de jeux vidéo, et on habite ensemble, donc pour la première fois, on réhabite ensemble depuis donc Namur, on habite à Mons, j'ai ma société de jeux vidéo que je lance en start-up, donc beaucoup de travail aussi. Cathy me dépose au matin à 9h du matin, elle vient me chercher à 2h du matin tous les jours. Et donc on fait ça pendant 4 ans. Comme je suis tout seul avec 15 employés, donc on vit quelque chose de vachement dur, encore une fois. Hein. J'aurais jamais dû en fait aller à Valenciennes et réussir mon examen. Je pense que ça, c'était la plus grosse connerie que j'ai fait. Quand j'y pense maintenant, je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai fait de ma vie. En même temps, non, parce que sinon, j'aurais pas fait tout ça non plus. Mais ça a fait beaucoup. En fait, la distance a fait beaucoup. A fait beaucoup de... Où on n'était plus à 100% comme on était quand on était ensemble aux côtes. Donc, loin des yeux, loin du cœur, même si les fondations sont là. Et là, 4 ans après, donc beaucoup d'argent, hein, société de jeux vidéo, beaucoup d'argent, 26 millions de francs belges à l'époque, hein, j'avais 26 ans, donc beaucoup d'argent quand même. L'argent, c'est pas bon. Hein. L'argent, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que ça attire plein de gens autour de toi. Donc, conclusion, au lieu d'être à 2, on est à 15 à la maison. Tous les soirs, amis. Donc les parents nous disent, donc ses parents nous disent, attention, vous êtes en train de, vous n'êtes plus adulte. Et on dit, non, non, ça va aller, tout va bien, ça va aller, ça va aller, ça va aller, parce qu'on est ensemble, on dort ensemble, on fait l'amour ensemble, tout se passe bien. Ce qui s'est passé était du passé, donc on continue comme ça. Et arrive le 11 septembre. Je suis dans la société de jeux vidéo que j'ai montée avec un ami Philippe. Et là, je vois les deux tours qui s'écroulent. Je travaille avec le marché américain, moi. Je travaille avec Electronic Arts, je travaille avec Namco, je travaille avec Microïd, je travaille avec Infogrames, je travaille avec les sociétés de jeux vidéo, donc surtout les grosses françaises, du moins les grosses américaines. Et là, en même temps, on injecte 300 000 euros donc, dans la société pour faire un niveau de jeux vidéo. On le signe, mais deux jours après, le 11 septembre, je me dis, oh putain, ici, ça va chier, quoi. Donc, je fais un travail jusqu'au mois de mai pour faire le premier niveau de jeu. On a reçu un mot d'ordre interne. S'il y avait une facture qui partait dans les pays qui n'étaient pas rentrés en guerre avec nous, donc la France et la Belgique, eh bien, nous allons avoir des problèmes. J'ai fermé la société. Et donc, du jour au lendemain, donc je suis rentré le 3, je crois que j'ai fermé le 6 avec mon conseil d'administration. On a fait un dépôt de bilan et une faillite. Et donc, je me retrouve au chômage pendant 2 ans. La lumière s'éteint. Il faut savoir qu'après avoir travaillé tout ça et après avoir fait tout plein de choses comme ça, la lumière s'éteint. Donc c'est comme dans Les Visiteurs, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Sauf que là, c'était nuit, 2 ans. Beaucoup d'argent, plus d'argent. Cathy indépendante qui me donne 50 euros par jour. C'est énorme pour maintenant, 50 euros par jour. Mais à l'époque, c'était ridicule, 50 euros par jour. Vraiment ridicule, c'est comme si on disait 5 euros. Et elle me donne 50 euros par jour pour que je puisse dépenser 50 euros par jour. Et là, elle me dit, ça va aller, ça va aller. Et là, on fait des allers-retours en Valenciennes, Bazar, on essaie de trouver. Et en même temps, je dois rester 2 ans au chômage, quoi. Je dois rester 2 ans au chômage. Donc, je reste 2 ans au chômage. Et là, ça commence à être chiant pour elle. Parce que son homme... artiste qui brillait et à qui elle avait entièrement confiance, avec qui elle disait tout, avec qui elle le voit méchant, elle le voit agressif, elle le voit triste, elle le voit partant en couille, elle le voit partant en couille, je vais dire, voilà, elle le voit, elle ne voit plus du tout le même personnage. Plus du tout l'être qu'elle a aimé, en tout cas. Elle est toujours pareille. Elle, elle l'est toujours. Et donc, là, ça commence à être assez, assez dur pour tout. Et donc, j'en veux à la terre entière... parce que je me dis, merde, quoi, après avoir fait autant de choses, après avoir travaillé autant d'années, après avoir dormi aussi peu, c'est quand même dur. Donc, je deviens vraiment infect. Mais vraiment infect, je suis méprisant, c'est le terme. Et donc, les années passent, et donc j'ai toujours cette... Donc, je lance le marché de Noël de Mons, après le chômage. Donc, voilà, donc je lance le marché de Noël de Mons, et je me souviendrai toujours, j'avais fait une patinoire en forme de cœur pour symboliser quelque chose que j'avais perdu. Et je me dis, je vais rattraper le coup. Voilà, donc je la mets comme reine des fées. Elle est dans un... Donc, voilà, elle est... Genre artistiquement, je reprends du poil de la bête et donc voilà, je crée donc Monstre en neige avec les fées, les lutins. Je la mets comme reine des neiges parce que c'est toujours ma reine et donc elle est avec Père et Mère Noël, donc ma sœur et mon beau-frère qui sont dans la calèche. Mais je vois dans ses yeux que le petit pétillant n'est plus là. Et comme le petit pétillant n'est plus là, ça, c'est le problème des hommes, c'est que quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui part, comme ils ne le maîtrisent pas, ils deviennent désagréables. Parce qu'ils sentent que c'est du sable qui passe entre leurs doigts, alors qu'avant, ils avaient une pomme. Et de la pomme, il y a du sable. Et là, c'est très, très dur. Pour moi, parce que je suis de plus en plus agressif, en fait. Elle va faire des cours de capoeira. je suis jaloux sur les cours qu'elle prend, parce qu'il y a des garçons, parce qu'elle me dit ils sont gentils avec moi. Donc je n'accepte plus ce mot gentil. Gentil est égal, comme on dit, gentil n'a qu'un œil. Et donc voilà, donc j'ai interdit des choses, infecte, pas bien, parce que je sens que ça part. Les années passent et je lui dis, on ne ferait pas un enfant, est-ce qu'on ne se marierait pas, et c'est moi qui lance en plus, et je ne respecte pas ça. Donc je sais pas, c'est du désespoir, je sais pas. Et donc ça c'est compliqué. Youp, voilà. Et donc par rapport à ça, ça part. Je sens que ça part et je suis désagréable. Ben, vraiment désagréable, vraiment chiant quoi. Et donc comment je vais dire ça? J'essaie plein de trucs et en même temps.
Qu'est-ce qu'elle en pense quand tu lui proposes de l'épouser, d'avoir des enfants? Elle est quand même partante ou tu sens que...
Non, elle est Cathy, elle est toujours... elle a toujours cette bienveillance. Elle a toujours ce côté-là chic et bienveillant. Et même si c'est dur à accepter, même si elle sent aussi les choses, elle est si encore. Mais en fait, c'est moi, inconsciemment, qui me... J'essaie de récupérer les choses et inconsciemment, je sais que parce qu'on se connaît, c'est pour ça que je dis que les bases sont importantes. Donc je sais que on est, mais on n'est plus. Donc on est encore là, à deux, on vit encore dans la même maison, on est encore dans le même lit. Mais moi, hormonalement, c'est plus ça. Je commence à me détacher. Est-ce que c'est une défaite par rapport à un travail? Est-ce que c'est une défaite par rapport à ces gens autour de moi? Est-ce que c'est une défaite par rapport à justement ces distances qui étaient trop longues? Ça, je ne le sais toujours pas. Mais en même temps, je lui ai fait du mal. Dans le sens où... voilà, je suis quand même sorti avec un garçon, quoi. À l'époque. Et donc, je sens ça aussi et je sens que je suis en tort. C'est pas elle, elle est en tort de rien, elle n'a rien fait, hein, elle est toujours... Et même encore maintenant, elle est toujours extraordinaire. Et donc, voilà, donc je sens que ça part en vrille. Et donc, je dis Marien, je dis si, et puis pour finir, je n'assume pas, donc j'achète un lapin.
Un lapin.
Pompon. Et donc, après, le lapin, il meurt. Donc, le lapin. Et puis, tu sais, je ne sais pas. Je sais, je sens que je ne serai pas assumé. Je sens que j'ai été dégueulasse. Quoi. Tu sais, quand je dis dégueulasse, je sens que voilà, je me dis, c'est con ce que j'ai fait. Tu regrettes. Et donc, après, on a acheté un chien qui s'appelait le Bocuse. On a essayé plein de choses. Attention, on est en vacances, on a fait plein de choses. On était en Afrique. On a fait plein de choses pour essayer de récupérer ça. Parce que quand on aime, on essaie de guérir. On essaie de penser, on essaie d'oublier. Mais non. Quand c'est griffé. Et donc, je m'en veux, donc je suis colérique, parce que je m'en veux. Donc, je m'en veux sur moi, je m'en veux sur elle, je m'en veux à la terre entière, parce que j'ai abîmé ça, parce que j'ai sali, parce que j'ai rayé. J'ai vraiment rayé. Vous savez, la craie là, qui est sur le tableau, là, j'ai fait ça tout seul, comme une merde. et donc, comme j'ai rayé ça, eh bien donc, je m'en veux beaucoup. Et donc, à un certain moment, à 38 ans, on se retrouve dans la chambre. Et donc, elle me dit, on ne peut pas continuer comme ça. Je lui dis non. Je lui dis, on doit se séparer. Elle me fait, on n'est pas corvieux. On est corbeau. Donc, si on doit revivre quelque chose, on le revivra peut-être plus tard. Mais là, regarde, on a tout essayé. Mais ça, c'est on a tout essayé. Hein. Mais vraiment, hein. tout. Pas au niveau cadeau, ni des trucs comme ça. Non, vraiment, les fondations, on a ressorti. Non, les fondations, déjà, mais j'ai essayé. Mais c'est moi-même qui était plus distant, qui n'avait plus envie par rapport à cette culpabilité-là et par rapport, justement, où je voyais que je l'avais rendu triste. Donc, on peut pas se marier, faire des enfants pour dire de récupérer le coup. Ça ne sert à rien. C'est griffé. Bon, elle me pose la question. Et je lui dis, tu sais quoi ? Eh bien, on va se séparer. Elle me dit, c'est tout ? Je dis, mais je sais pas quoi dire. Et la même verso que quand on a tout fait ensemble. Donc c'est toujours ce rapport honnête. Ça a toujours été dans l'honnêteté, dans le sens où on s'est toujours dit les choses, on a toujours discuté de ce qui allait, ce qui n'allait pas et tout ça. Elle m'avait toujours dit, ne me fais jamais passer pour une cruche, hein, donc dis-moi tout. Donc je lui ai toujours tout dit, tout, mes envies, mes fantasmes, mais tout. S'il y en a bien une qui me connaît, c'est bien elle. Elle sait tout. Elle sait tout. Et donc, on se sépare. On se sépare comme ça, dans la discussion. Et elle me dit, oh, je crois que ça allait être plus dramatique et tout ça. Je dis, non, Cathy, quand on aime, je ne vais pas te faire du mal. Je t'en ai déjà fait assez. Donc, j'espère, le but, c'est que tu sois heureuse. Le but, c'est que tu sois aimée. Le but, c'est que tu vives des belles choses comme on a vécu. Parce que des belles choses, il y en a eu très, 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 très belles et nombreuses. Nombreuses. Et donc, voilà. Donc, OK. Donc, on se dit, on ne dit rien à personne. On va faire notre deuil. Et le deuil a duré 6 mois avant de l'annoncer. Et donc, pendant 6 mois, elle a sa vie, j'ai la mienne. Et donc, à un certain moment, elle me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, t'as trouvé quelqu'un ? Elle me dit, écoute, j'ai été manger avec lui. Je fais, ah bon ? Donc, on se retrouve comme à 15, c'est 13 ans. Donc, on revit quelque chose de vrai, d'utile, de bon, d'échange. Elle me dit, mais il est gentil. Elle me dit, il est adorable, il a une fille et tout ça. Je dis, ah bon ? Je dis, et vous avez déjà fait quelque chose ? Elle me dit, non, on s'est fait un petit bisou et tout ça, mais on a bien discuté. J'ai bien discuté de toi et je lui ai dit, écoute, moi j'ai une vie de 23 ans. Donc ne me demande jamais d'effacer cette vie-là, vu qu'elle fait partie intégrante de moi. Et donc je ne veux surtout pas que tu me demandes de ne plus voir David ou de ne plus ci ou de ne plus là. Elle me dit, il a accepté parce que je lui ai bien expliqué les choses, je lui ai bien tout expliqué qu'elle me dit, et donc qu'il n'ait pas peur et quoi que ce soit. Et donc je lui dis, appelle-le. Et donc là, elle va dans la cuisine et je vois qu'elle est dans son intimité, je vois qu'elle est toute pétillante, qu'elle est toute comme ça, avec ses épaules et ses aisselles-là, ses coudes bien serrés sur ses côtes, comme ça, avec le téléphone, comme ça en main. Elle fait, oui, je l'ai dit à David, il veut te parler.
Je trouve ça excellent, sérieusement, c'est pas formidable. Et moi, je prends le téléphone, je dis, écoute, je dis, tu as une perle entre les mains. Tu vas vivre des moments merveilleux. Elle est extraordinaire. Vous allez passer plein de belles choses, vous allez faire l'amour, vous allez voir, ça va être formidable. Mais je lui dis, mais si un jour, toujours ce côté-là, tu vois. Je dis, mais si un jour, je la vois pleurer, je débarque, je te crève tes yeux. Donc, tu vois encore avec cette possession comme ça, ou cette protection, où je dis, voilà. Et là, je la vois heureuse. Et ce poids de merde que j'avais créé moi-même, tout ce poids-là est parti. Parce que je l'ai vue heureuse. Heureuse. Comme moi, je l'avais vue heureuse. Et comme on a été heureux aussi, on sait quand la personne est heureuse ou pas. Moi, c'est la descente aux enfers à partir de ce moment-là. Donc, de mes 38 ans à mes... Donc, 3 ans après, tout s'écroule. Tout. Et David, il se retrouve du jour au lendemain à la maison, tout seul. 3 ans. 3 ans de trucs sympas, attention, hein, donc des amis et tout ça, les sorties, mais éphémères. c'était voilà, c'est comme on dit, c'était fade parce qu'il n'y avait pas de lendemain, il n'y avait pas. Donc j'ai essayé deux trois petits trucs et je me souviendrai toujours. Oui, c'est ça, quand on s'est séparé, je lui ai dit de toute façon, je ne te tromperai jamais. Tu resteras toujours la seule et unique femme pour moi. Et donc, voilà, je vais avec un homme. Et le parfum que je porte, c'est son parfum. Donc, j'ai dit, je vais garder ton parfum sur moi. Comme ça, tu seras toujours présente. C'est ma muse. C'est elle qui m'a fait grandir dans tout. Qui m'a soutenu, qui a toujours dit, allez, vas-y, David, fais-le, montre aux autres qu'ils ont tort. Et c'est ça que je regrette d'avoir sali et d'avoir, comment je vais dire ça, d'avoir, je regrette d'avoir été méchant, en fait. S'il y a bien un truc que je dis toujours, toute ma vie a été géniale dans le sens où je ne regrette pas. Et si ce sera à refaire, je le referai. Eh bien, ça, c'est la seule chose que je ne referai plus. C'est d'avoir été aussi méchant dans le sens, voilà, par rapport à un malaise, de l'avoir fait subir à la personne qui, elle, n'en pouvait rien. Elle a fait sa vie, elle est toujours avec son compagnon que j'adore, et parce qu'on on s'entend bien, on va manger ensemble et tout ça. Et donc je me retrouve là après dans du chaos où j'essaie de faire des trucs et tout ça, ça marche pas, mais je continue toujours de me racheter en fait dans la bienveillance, dans les choses que je mets en place, donc tout positif autour de moi. Et donc, je continue à faire encore maintenant, hein, donc même avec les Restos du Cœur et tout ça, je continue à faire du bien autour de moi parce qu'à une certaine période de ma vie, ben, j'ai été méchant. Et donc, à un certain moment, je me retrouve en haut d'un terri. J'avais besoin de ça, c'était le 24 décembre, donc il y a 5 ans et demi. Ma sœur m'invite chez elle à la Noël. Et là, j'arrive en haut du terri, je suis avec mon filleul, Florent. Et là, je commence à appeler mes morts et toutes les grands-mères et tout ça. J'appelle tout le monde. Je commence à demander à tous mes morts d'avoir quelqu'un et je demande à un garçon. Donc, je dis, je le veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je le décris, je dis ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Je veux dire qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit attentionné. Tout ça. Donc, en fait, je veux qu'il soit comme elle, mais en homme. Je redescends, il y a une bourrasque de vent. Il y a du vent qui tourne. Je vois toutes les petites maisonnettes là qui sont en bas avec leurs petites lumières de Noël. Et moi, je me retrouve en haut d'un terri. Il fait super froid. Je dis à mon filleul, s'il m'arrive quelque chose, tu vas directement chercher une ambulance, mais tu me laisses là, ne reste pas à côté de moi, ça ne sert à rien. Pour vous montrer un petit peu l'état dans lequel j'étais, c'était super bien, tout va bien. Pas dire suicide parce que je suis pas dans cet esprit là, mais j'étais pas bien, j'en voulais à la terre entière en fait, hein, mais de ma faute, tu vois, en plus c'est ça qui est con, c'est que c'est toi qui crée tout ça et c'est toi qui t'en veux et c'est toi qui, voilà, soit, peu importe. Et le 2 janvier, donc on est le 24 décembre, hein, donc le 2 janvier, genre, je reçois un SMS qui me dit bonjour. Donc, bonsoir, on ne se connaît pas, je rentre chez moi, j'ai eu votre téléphone par l'intermédiaire d'une personne qui était à côté de vous ce jour-là, et donc je voulais savoir si, au lieu de rentrer chez moi, si je pouvais passer chez vous. Je suis avec un ami qui est là, à l'appartement, hein. Et je lui dis, écoute, j'ai répondu à quelqu'un, oui, mais comme tu es là, j'ai répondu, oui, alors que je ne fais jamais ça de ma vie. Je dis, il y a le vidéophone, donc je regarderai si je le connais ou pas, et s'il fait chier, ben, tu le jettes dehors, que je lui dis. Et lui me fait, oui, pas problème. Donc, il arrive, et c'est l'opposé de physiquement ce que j'aime chez un homme. Donc, voilà, chauve, blanc de peau et tout ça et tout, que je me dis tiens merde, je dis c'est vrai que j'ai pas demandé la couleur. J'avais décrit un personnage, même sans la couleur. Et donc je ne pense pas à lui. Tu vois, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas. Et donc, il arrive, il me dit bonjour, tout poli, bien. Tu sais, bien, quoi, bien poli, agréable. Et donc, je le fais rentrer et on parle jusqu'à 9h du matin. Il repart, il me dit, ah, je dois faire quelque chose ici, et je reviens, si tu veux, à 10h. Je dis, oui, je suis toujours avec mon chien, parce qu'il faut savoir qu'à Cathy, on avait la garde alternée du chien. Donc, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il a quand même vécu 14 ans, notre Bocus. Hein. Et donc, j'explique, moi, à Cathy, que, voilà, donc 3 ans après, c'est moi qui lui dis, j'ai quelque chose à dire. Et elle me fait, oui, raconte. Et elle me dit, bon, fais attention que ce soit pas. Et donc, elle est soudée, elle est terrible. Bon, fais attention, hein, qu'il ne soit pas là pour tes sous, pour ta notoriété ou tout ça. Donc, fais attention, je te connais. Hein, tu vas encore dire oui, oui à tout. Et pour finir, après, tu vas encore être le dindon de la farce. Et donc, je fais ce qu'il faut. Dans le sens où on discute et tout ça, je lui explique. Il part. Et là, j'ai un couac parce que je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Et donc, il revient. Je prends le chien, je le mets dans la chambre, je ferme toutes les portes et je m'isole pendant 3 jours. Je ne réponds pas, ni au téléphone à lui, ni au téléphone, ni au dictaphone, ni au vidéophone. Je ne réponds pas. J'ai peur de reproduire ce que j'ai reproduit là. J'ai peur d'entamer quelque chose. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de redécouvrir mon diaphragme qui m'a fait tellement mal de peine et de tristesse. J'ai peur de ça. Mon ami Tuc revient 3 jours après. Et on est en soirée. Et il me dit, ça va et tout ça. Je dis, oui, oui, tout va bien. Bon, en fait, non, je me suis isolé pendant 3 jours, hein, enfermé. Hein. Et donc, fermé, le fenêtre, tout à la totale. Hein, donc, voilà. Fermé. Et donc, 3 jours après, mon ami turc qui revient, il me dit, alors David, ça va et tout ça? Je dis, oui, ça va très bien. Il me dit, et alors? Il me dit, comment ça se passe avec le garçon qui était là quand je suis parti? Et je lui dis, bah, en fait, j'ai toujours pas répondu et tout ça. Et là, il m'engueule, parce que lui, il a vécu ces 3 ans-là. Et là, il m'engueule, il m'insulte carrément. Il me dit, oui, moi j'en ai marre de te voir comme ça. Et si pour une fois qu'il y a quelqu'un de bien, au moins essaie. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu veux? Nous, on en a marre de toi. On se sent obligé de venir parce qu'on a peur que tu fasses une bêtise. Putain, il m'engueule, mais il m'engueule. Alors j'ai tous les noms, hein, en turc, en machin, tout ce que tu veux, je comprends rien, mais c'est pas grave. Mais il est en colère parce que je n'ai pas donné signe de vie. Et pendant qu'il se met en colère, j'envoie, donc par rapport à tous les textos que j'avais reçus de Guillaume, je lui ai simplement dit, parce qu'il me disait, écoute, c'est le dernier message. En plus, c'était son dernier message, c'est ça qui est drôle encore. Il me dit, c'est le dernier message, donc si tu veux, à ce moment-là, que je vienne, envoie-moi un petit texto en me disant... tu peux passer. Et l'autre m'engueule. Je me souviendrai toujours, il était en face de moi, j'étais dans le divan. Et là, je lui ai indiqué, tu peux passer demain. Il m'a mis, ah, c'est bon ça. Là, je me souviens de son petit texto. Il m'a dit, ah, c'est bon ça. J'ai dit, oui, disait. Et l'autre m'engueule, il continue. Et là, je rigole. Parce que je le vois s'énerver. Et il a raison, complètement, il a raison. Togai. Et donc, je lui dis, c'est bon, j'ai envoyé le message. Voilà, c'est deux garçons, au lieu d'un garçon et une fille. Et si maintenant je dois comparer les deux, eh bien, pour moi, ils sont identiques. Dans le sens, parce que l'honnêteté est là, la confiance est là, la générosité est là, l'amour est là, évidemment, en première position. Et surtout, l'attention est là. Et bon, j'ai encore 2-3 petites colères, hein, attention, hein, mais... ça n'a plus rien à voir parce que j'ai mûri. Et à 46 ans, c'est pas 26, c'est pas 20, c'est pas 30. 46, c'est 46 ans, quoi. Et donc, on est mieux dans notre peau. Et donc, on va manger ensemble. Donc, Cathy, son compagnon, moi et le mien. on va manger ensemble, on est toujours avec les mêmes amis, on se retrouve ensemble. Et donc, je retrouve une Cathy heureuse. Et un David heureux, voilà. Donc, voilà, le mauvais est passé. L'orage ou le typhon ou le tsunami, on va plus le dire, est passé. Et donc, ça, c'est beau de se retrouver comme ça autour d'une table parce qu'elle a eu peur pour moi aussi. Et le but maintenant, c'est qu'on est vraiment bien, on s'appelle. Et si j'ai encore un SMS hier ou avant-hier, ça va les garçons, oui, ça va chérie, et toi, vous allez bien, oui, voilà. Voilà, on a une relation complètement saine et je suis vraiment heureux qu'elle est heureuse. Et la fois passée, je lui ai dit, et alors, tu vas bien, tout se passe bien. Et elle m'a regardé, elle m'a dit oui. Et en tout cas, je ne pleure plus. Et j'ai dit, bah, écoute, excuse-moi encore. Mmh. Voilà, ça c'est ma petite conclusion.
Et c'est un podcast qui s'appelle Ça m'apprendra. Et je voulais
savoir... Ah oui, mais là, ça m'apprendra.
Je voulais savoir ce que ça te fait d'avoir retracé toute cette belle histoire qui se termine bien, finalement.
Oh, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait toujours autant de mal. Parce que, voilà. Ça me fait... J'ai mon petit... À chaque fois, ça me sert. Parce que c'est comme ça. Mais, le positif, c'est que... tout est remis en ordre, que ce soit de son côté, du mien, voilà, tout est remis en ordre. Et je ne regrette absolument pas d'avoir passé les merveilleux moments ensemble. Oh non. Qui? Oh oui, là j'ai la voix serrée. Mais bon, la vie est belle, la vie continue et prenez soin des gens qui sont autour de vous, c'est le plus important.
Merci beaucoup, David.
Merci, bisous les filles.
C'était Ça m'apprendra, le podcast de Flair qui parle d'amour au masculin. Il a été créé par Laura Noitecamp et Justine Rossius avec la douce musique de Jérôme Castin. N'hésitez pas à nous laisser une note pour nous dire à quel point vous l'avez aimé. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast et sur flair.be. Merci, à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de vous aimer.